choix. 98.1
Radio X.
Morning Live. Real talk, talk real. The business of the world with Miguel Ouellette.
Money, money, money. Miguel Ouellette. Comment ça va, Miguel?
Salut, Dom. Ça va super, toi?
Très bien. On a de l'énergie aujourd'hui. On commence avec ça. On plonge d'entrée de jeu. Tu mentionnes que les partis doivent se positionner clairement en faveur de notre infrastructure de pipeline. Je ne sais pas si on a entendu ça dans notre campagne électorale, par contre, mais la question énergétique, il me semble que ça n'a pas été au cœur des discussions. Il me semble que ça n'a pas été au cœur des discussions, malheureusement.
Exactement, puis j'imagine écouter les débats aussi.
Ben oui, on n'a pas parlé.
On le voyait que, tu sais, le secteur énergétique au Canada, il faut être conscient, c'est 10 % de notre économie. C'est plus de 830 000 travailleurs indirects puis directs. Donc, c'est quand même un secteur qui est extrêmement important pour le Canada, qui l'est peut-être un peu moins au Québec, mais qui l'est pour les provinces de l'Ouest. Puis Dieu sait qu'on reçoit beaucoup d'argent de l'Ouest. Donc ça, quand j'ai regardé les débats, je me suis dit, comment ça, on parle autant pas d'énergie? Puis là, quand ils s'en ont mis à en parler, je me suis dit, ouais, c'était peut-être mieux qu'on n'en parle pas, parce que là, c'est encore le discours anti-énergie qui reprend ses forces, anti-pétrole, anti-gaz naturel maintenant, hein, même si c'est beaucoup plus propre que le charbon, beaucoup plus propre que le pétrole, c'est maintenant anti-gaz naturel. On n'est plus vraiment capable d'avoir une discussion posée et rationnelle sur, sur l'énergie, puis encore moins sur les moyens de le transporter. Puis étonnamment, là, ça m'a vraiment surpris, mais Justin Trudeau, il a été le seul qui a eu un discours posé sur le sujet, malgré ses déboires avec Trans Mountain. Donc, peut-être que les babines ne suivent pas les bottines, mais il a quand même été capable de dire aux gens que les oléoducs au Canada sont sécuritaires, puis c'est économiquement viable. Mais malheureusement, ce que je vois là, en ce moment, c'est que les partis fédéraux gouvernent un peu avec les sondages. Hein. On le sait, même au Québec, avec la pandémie, c'est la même chose. Donc, les gens au Canada, on dirait qu'il y a un shift un peu dans la mentalité où ce que on croit maintenant que les oléoducs, que le pétrole, tout ça, c'est de moins en moins bon. Mais pourtant, quand on regarde les chiffres, là, chaque année, c'est 99,9 % du pétrole qui est acheminé par l'oléoduc, qui est transporté sans accident, sans incident. Donc, des fois, on a l'impression que si on met un pipeline, ça va commencer à polluer les terres, il va y avoir des déversements, mais ça n'arrive pas au Canada parce qu'on a une réglementation qui est forte. Sans compter que ça émet 70 % de moins GES que les autres moyens de transport de combustible. Parce que si on pense aux bateaux, aux trains, on l'a vu à Lac-Mégantic, c'est vraiment triste ça. Ben, les oléoducs, c'est vraiment un moyen de transport qu'on doit prioriser. Puis je suis vraiment déçu de voir que les partis fédéraux n'en parlent pas assez. Puis l'autre chose, Doom, que je voulais te parler à propos de ça, là, c'est que 98 % de nos exportations de pétrole en ce moment vont vers les États-Unis. Donc, on a vraiment une stratégie de client unique. Puis on le sait présentement avec Biden, hein, c'est pas vraiment la personne la plus pro-énergie.
Mais non, en plus, il veut virer solaire. Tu as vu son programme de solaire qui a été lancé la semaine passée avec, entre autres, très peu de place à l'hydroélectricité. Parenthèse de même, si on parle d'énergie, personnellement, je suis très inquiet pour Hydro-Québec parce que le modèle québécois est assis sur des redevances de plus de 3 milliards d'Hydro-Québec par année. Et Biden et sa gang... C'est juste 5 % la projection là, de consommation énergétique, il y a juste 5 % qui va provenir de l'hydroélectricité. Eux autres, l'hydroélectricité, dans la tête des démocrates et des gauchistes américains, c'est pas bon. Eux autres sont bandés sur le solaire. Parenthèse comme ça, mais c'est quand même pertinent pour l'avenir du Québec.
Pertinent. C'est super pertinent à dire. Puis on le sait, mettons, les États comme New York, là, ils importent beaucoup d'électricité d'ici. Puis quand on regarde le plan Biden, comme tu le dis, ça va faire mal au Canada, mais aussi au Québec. Donc, c'est plus maintenant juste on ferme Keystone, on ferme les oléoducs du Canada. On ferme aussi l'importation d'hydroélectricité qui est assez propre là, du Québec, on va se le dire.
Oui.
Donc, c'est assez inquiétant pour nos travailleurs. Puis, quand je regardais aussi les chiffres sur la demande mondiale, là, je me suis rendu compte que la demande mondiale de pétrole va augmenter 9 % d'ici 2040, puis elle va augmenter 40 % en Asie. Donc, il y a vraiment une opportunité en or pour le Canada à saisir. Puis, en ce moment, vu qu'on met tous nos œufs dans le même panier, on exporte tout vers les États-Unis, bien, on devrait se dire peut-être qu'on devrait avoir plus d'oléoducs qui sont sécuritaires et écologiques pour pouvoir ensuite exporter notre pétrole vers d'autres marchés pour en fait, jouir de cette opportunité-là. Puis, j'aimerais bien entendre les partis fédéraux là, se prononcer là-dessus. Là.
Là, tu parles également de pénurie de main-d'œuvre, situation de pénurie de main-d'œuvre qui est très, très, très grave. Juste pour donner des indices, mais je veux dire, le diable est des détails. On a plein de détails, plein d'anecdotes. À Québec, Starbucks ferme à 2 heures de l'après-midi.
Ben oui.
Il y a des Tim Hortons qui ferment à 1 heure de l'après-midi. Tu sais, je veux dire, c'est plus. Tu sais, avant, il y a 2-3 ans, hein, Dan, on se disait ça. Ouais, tel McDo qui était, devait ouvrir la nuit à Charlebourg, il n'ouvre pas la nuit. Mais ça, c'était la nuit. Ça touchait pas beaucoup de monde. Mais là, on a des restaurants qui ferment l'après-midi la semaine. Là. Comment ça être grave en maudit, ça, Miguel? Là? La Partie fédéraux ne parle pas de ça pantoute.
Non, exact. Ça commence à être très grave. Puis comme tu le dis, les restaurateurs en arrachent, mais aussi dans le commerce du détail. Il y a plusieurs usines aussi qui en arrachent en région. Puis en fait, quand on regarde le nombre de postes vacants, ça augmente depuis 2016. Donc, c'est comme si la pénurie s'accentue depuis maintenant 5 ans.
Ah oui.
Puis c'était pas vraiment quelque chose qui était discuté dans les dernières années. Non. On en parlait un peu, puis on disait il faut un plan, il faut faire quelque chose. Mais on regardait ça à l'œil, mais en fait, le cancer se propageait. Puis présentement, on a des partis qui nous disent on veut créer 500 000 emplois, on veut créer 1 million d'emplois au Canada. Mais comment tu vas créer des emplois si tu n'as personne pour prendre les postes?
Mais c'est ça!
C'est inconcevable. Qui va occuper les postes? Puis le seul, étrangement, là, qui a dit ben, comment vous allez faire ça, c'est Yves-François Blanchet du Blog qui a dit ben, écoutez, vous pouvez bien créer 1 million d'emplois, mais c'est qui va les occuper?
Pas d'humain.
Ben, il n'y a pas d'humain. Puis en fait, l'autre chose, c'est faut être clair là-dessus, là. Le gouvernement ne crée pas d'emplois en soi, là. À part les fonctionnaires, là, parce qu'on le sait, au Québec, les fonctionnaires, il y en a beaucoup, mais le gouvernement ne crée pas d'emplois. Il peut établir un cadre fiscal, un cadre réglementaire, avoir des subventions pour qu'il y ait des emplois qui soient créés dans le privé, mais après tout, c'est le privé qui crée les emplois, ce n'est pas le secteur public. Fait que ça, il faut arrêter de prendre le crédit quand on est un politicien. Puis l'autre chose, c'est à place de dire on va créer 1 million d'emplois au Canada, il faudrait penser à augmenter la productivité des employés puis des travailleurs. C'est ça qu'il faut faire au Canada. Puis au Québec, on tire un peu de la patte quand on compare avec les autres provinces. Donc, c'est vraiment, il faut miser sur l'automatisation, l'éducation, la formation. Ça, c'est des politiques publiques qui font du sens. Mais de là à dire il faut créer des emplois quand il n'y a pas de travailleurs, ça n'a aucun sens.
Voilà. Ah, puis je veux finir avec les garderies, puis tu m'as relayé un bon texte. Un texte que tu as co-écrit, mais ça date du début de l'été, avec Maria Lilisha, je pense, qui était à l'IEDM, je pense, j'ai déjà parlé.
Exact, tu es économiste avec moi, puis oui, vous êtes déjà parlé.
Exactement. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là de donner un chèque de 6 milliards au gouvernement du Québec pour, justement, dans la tête de ben du monde, hein, regarde, le fédéral va nous donner de l'argent, ça va créer des places à la garderie. C'est pas vrai partout, ça va aller dans le tronc commun, puis le gouvernement va se servir de ça pour le dépenser à sa guise. Qu'est-ce que tu penses de toute l'histoire des garderies qui, à mon avis, lorsque les Canadiens anglais parlent de ça, les plus socialistes, moi, je pense qu'ils rêvent en couleur. Parce qu'ils ne regardent pas combien ça devait coûter au Québec et combien ça nous coûte. L'explosion des coûts et le fait que ça demeure un système foncièrement inefficace aussi. Les listes d'attente a pu finir. Je ne sais pas, les Canadiens anglais, socialistes, ils pensent à quoi lorsqu'ils rêvent au système québécois? Ils regardent juste un côté de la médaille, j'ai l'impression.
Ben exactement. Puis, tu sais, au Québec, là, quand on est bien content là, que Trudeau nous promette 6 milliards pour des CPE, c'est qu'on a un peu la mentalité, malheureusement, de toujours vouloir jeter de l'argent sur le problème. Donc là, on se dit, notre système de santé ne fonctionne pas, on devrait réinvestir encore plus. Mais des fois, ce n'est pas une question qu'il manque d'argent, c'est une question d'allocation des ressources qui n'est pas efficace, tout simplement. Donc là, avec les CPE, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée de rajouter des milliards là-dedans parce qu'on en met déjà chaque année des milliards. Puis malheureusement, il y a encore plus de 50 000 enfants au Québec sur la liste d'attente.
Là, les gens vont dire « Ouais, Miguel, t'es pas correct, on a besoin de place, donc ça prend plus d'argent. » Tu comprends?
En fait, là, l'affaire, c'est qu'il faut regarder deux choses. Premièrement, il faut regarder qu'est-ce qui se fait à l'international. Donc moi, j'ai été voir qu'est-ce qu'il fait au Royaume-Uni, en Suède, dans plusieurs États américains où ce qui n'ont pas les problèmes de liste d'attente comme nous. Puis ce qui se passe là-bas, c'est le gouvernement ne va pas subventionner la garderie elle-même. Ils vont subventionner les parents.
Ben voilà.
Donc, ils mettent sur pied un genre de système de chèque garderie, comme on pourrait l'appeler, où on laisserait le privé gérer les établissements, mais on offre un chèque aux parents qui sont dans le besoin ou pas pour s'assurer que tout le monde ait accès aux garderies. Puis là, en donnant l'argent aux parents, Bien, en fait, le chèque suit l'enfant. Donc, s'il y a une garderie qui n'est pas bonne, qui traite mal les enfants, bien, évidemment que les parents ne vont pas envoyer leurs enfants là. Donc, cette garderie-là n'aura plus de fonds. Donc, c'est vraiment ça, la concurrence. Puis, tu sais, quand je parle de ça avec les gens, des fois, je me rends compte qu'on comprend mal les effets bénéfiques de la concurrence, mais on les comprend bien quand on parle de restauration, quand on parle de magasinage et tout ça. Et c'est la même affaire avec les garderies. Plus de concurrence va amener plus d'innovation, va amener une meilleure gestion des ressources. C'est ça qu'on a besoin au Québec à la place de jeter de l'argent là, sur le problème.
Hein. Extensionne ce raisonnement-là avec la santé. Ben il va falloir, à un moment donné, penser à reviser le système de santé. Personne ne parle de ça. Là, on voit que le système est vraiment à terre. La compétition entre les hôpitaux, comme on a aux États-Unis où les hôpitaux s'arrachent les malades à Tampa Bay. Moi, j'ai cette image-là, mais dans d'autres villes américaines, là, ils annoncent ça. OK, nous autres, notre temps d'attente à l'urgence, c'est 7 minutes. L'autre, le bord de la rue, nous autres, c'est 5. Hein, viens te faire soigner. Ils nous veulent. Ici, ils ne nous veulent pas. Tu comprends? Parce que le système est à repenser complètement. C'est pas la même mentalité quand il y a trait à la structure de l'État, quand il y a trait avec les sociétés d'État, Hydro-Québec monopole, SAQ monopole, SQDC. Ils n'ont pas l'obligation de compétition, ils n'ont pas l'obligation de résultats et de l'efficience également. Là.
Exactement. Puis ce qui m'a fait un peu sursauter, là, c'est qu'il y a un monsieur de 86 ans qui m'a envoyé un courriel, OK, qui montrait une photo d'une page de journal là, 50 ans, OK, que le titre, c'est les listes d'attente, la longueur des attentes à ne plus finir. Puis c'était le même titre qu'il y avait dans le journal de Montréal l'année dernière.
Hey, c'est capoté. À quelle année, Miguel? L'article?
Je me souviens pas c'était en quelle année, je pourrais te retrouver ça. Mais c'était environ là, 40-50 ans. Là. Puis en fait, on se demande qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Ben, on a investi encore plus, on a dépensé encore plus, mais il n'y a rien qui a changé finalement. Donc, comme tu le dis, il faut revoir le système. Puis quand on dit réforme de système, là, ça ne veut pas dire de devenir comme les États-Unis. Là. Il y a plein de pays comme la Suède, le Danemark, qu'il y a des hôpitaux qui sont gérés par le privé, mais qui sont financés par le public. Donc, au final, toi puis moi, si on a une grippe ou on a quelque chose, puis on s'en va à l'hôpital...
C'est l'universalité encore.
L'universalité encore. Donc, c'est vraiment dans la gestion des ressources, parce qu'on le sait, CPE, système de santé, c'est extrêmement bureaucratique, c'est extrêmement syndiqué, ça coûte trop cher, on ne s'occupe pas assez des patients ou des enfants. Puis le pire dans tout ça, c'est que dans les deux cas, le client ou le patient, là, c'est un coût et non un revenu. Voilà le problème.
Pourquoi il y a des vaches sacrées comme sauce? T'sais, pourquoi... les vaches sacrées deviennent inattaquables?
Bien, aussitôt que je parle de faire gérer les établissements hospitaliers par le privé,
ça se met à crier.
C'est financé par le public. Ça se fait griller parce que les gens disent « Bien non, bien là, ça va être comme aux États-Unis, là, on n'aura plus accès aux soins. » Mais il faut vraiment faire de l'éducation économique pour dire non. On peut avoir un système universel, un système « gratuit », entre guillemets, hein, parce que c'est jamais gratuit, mais que les établissements sont gérés par le privé. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est fait en Europe, dans les pays scandinaves, qu'on adore tant, hein, Dom. Donc, je pense
On les aime à moitié.
C'est ça, on fait du cherry picking sur ce qu'on aime d'eux. Mais à un moment donné, il faudra vraiment être plus rationnel là-dessus parce que là, la pandémie, oui, c'est grave, mais attendons de voir le vieillissement de la population. Quand tout ce beau monde-là va rentrer à l'hôpital, là, ça va faire mal, puis ça va être un gros choc, puis c'est la prochaine pandémie qui va arriver.
C'est déjà à terre. Regarde, je parlais tantôt avec le président du syndicat des techniciens en radiologie. La liste d'attente juste à Québec, 22 000 personnes depuis 3 mois et plus. 22 000 personnes, dont beaucoup de femmes. Pensent qu'ils ont le cancer, qu'ils ne savent pas, qu'ils sont en attente. Les autres, ils attendent des mammographies. Je te donne cet exemple-là. Mais 22 000 au total. Et là, on ne sait pas trop comment s'arranger pour faire baisser la liste d'attente. On arrive avec des idées comme des bonnies, etc. Mais tu sais, je veux dire, c'est toujours du rapiessage. Tu sais, ils parlaient de sous Lucien Bouchard, ils ont envoyé des gens aux États-Unis. Moi, j'ai accompagné du monde aux États-Unis qui sont allés se faire soigner au Vermont, dans une clinique de cancer au Vermont. À Burlington.
Ah oui.
Mais ça, c'était de l'urgence. Là. Eux autres, ils partaient en autobus. Il y avait des voyages d'autobus organisés de malades pour aller se faire soigner, faire baisser les listes d'attente à Burlington. Ça fait dur pareil, hein?
Ça fait dur en masse.
On n'a pas eu de solution durable. Là, on a corrigé dans le temps parce que Lucien Bouchard, il avait l'air fou. Donc, on a voulu. Oui, on fait ça vite. On a des idées avec le Vermont. Mais là, on a encore un cristi de problème ses bras. 22 000 en attente juste à Québec, en radiologie. Ça fait dur en maudit.
Ben, ça fait dur. Puis moi et toi, là, on se parle d'une réforme de système, là, mais quand on regarde là, le ministre Dubé qui a proposé une réforme du système de santé, je vais voir dans sa réforme, un des premiers points, c'est d'enlever les fax puis de mettre les ordi. T'sais, voyons, on est-tu en 1950 au Québec? Alors, là, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment pas rendu au point d'avoir une réforme de fond. Puis qu'est-ce qui est dommage là-dedans? C'est 50% de nos impôts s'en vont dans ce vieux système poussiéreux-là. Fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas au Québec, puis il faudra s'y pencher. Là.
Bien, regarde. Puis toi, je sais pas si tu suis au travers de tes deux jobs l'histoire de Aaron, l'espèce d'enquête concernant ce qui s'est passé, pas d'accusation. Hey, ouais. C'est terrible, ça.
C'est triste pour les patients, là. Puis à un moment donné, il faut être humain aussi là-dedans. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau à voir. Là.
C'est épouvantable. Merci beaucoup, Miguel.
Hey, merci, Dom.
Bonne semaine. Salut, bye.
Salut.
Miguel Ouellet, des HEC, est aussi économiste à l'IADM. Concernant Aaron, Mme Bossé a reçu, là, je vous lis un extrait de l'article de ce matin dans la presse. Madame Bossard a reçu un autre appel le 6 avril. On lui apprenait que sa mère était en fin de vie. Elle a demandé que sa mère soit mise sous soluté. Le médecin a rappelé pour dire qu'il n'y avait aucun changement. Madame Bossard a alors demandé qu'elle reçoive une perfusion de médicaments pour qu'elle ne souffre pas, sa mère. Quand ils m'ont appelé pour me dire qu'elle était morte, j'ai demandé est-ce qu'elle était mieux avec sa perfusion. L'infirmière a répondu: de quelle perfusion tu parles? Ma mère avait rien. La seule chose qu'elle a eue, c'est de la morphine par la bouche. Quand elle a été trouvée, sa bonbonne d'oxygène était vide. Selon elle, la défunte n'a jamais reçu le soluté demandé. Ça me fait de la peine parce que ma mère avait peur de mourir étouffée. Et elle est morte étouffée. Donc, Aaron... morte de faim, morte de soif et étouffée, branchée sur des bonbonnes d'oxygène vide. Ça, c'est pas à Kaboul. C'est au Québec. C'est dans l'ouest de l'île de Montréal. Il y a personne qui est accusé. Et c'est incroyable. C'est renversant. C'est le no fault. C'est le système. C'était comme ça. Puis, regarde, il faut comprendre. Ils sont partis. Puis, c'était la COVID. Hein. Tu sais, regarde. Donc, la coroner, elle écoute ça, elle a le goût de vomir en entendant ça. Qu'est-ce qu'elle va écrire dans le cas? Le processus menant à la gestion périphérique des infrastructures a mené à une... là, ça va être un charabia épouvantable. Là, le gouvernement va être en élection. Fait, le gouvernement, eux autres, ils vont dire, Dubé, qui va peut-être être encore là à santé, lui va dire, OK, on a déjà fait les changements, anyway. On les a fait, ces changements-là.